Donc nous avons vu que dans notre méditation, il s'agit de d'être en contact, d'un contact juste avec l'expérience présente, ce qu'on appelait intimité, ce qui veut dire que dans ce contact, il n'y a ni désir, ni aversion, ni confusion, et qu'à ce moment-là, dans ce contact avec cette expérience, il peut y avoir vision claire de la réalité. Et dans cette vision claire de la réalité, il y a sagesse et liberté. Donc ceci dépend du contact juste avec l'expérience. Et ce contact juste, à nouveau, dépend de, du fait de ne pas être pris par désir, aversion, confusion. S'ils ne sont pas là, alors le contact est nécessairement juste. Il y a nécessairement une vision juste, pénétrante de la réalité. Mais s'ils sont là et qu'on n'est pas conscient, qu'on est agi par eux, à ce moment-là, il n'est pas possible d'avoir cette qualité de contact. Nous avons déjà parlé du désir, nous avons déjà parlé de l'aversion, qui sont assez simples à comprendre, mais en fait, nous avons peu parlé de la confusion, et ce soir, je voudrais revenir sur le sujet de la confusion, qui est le sujet le plus important, le plus difficile. Mais il n'est pas possible d'approfondir la méditation bouddhique sans aborder le problème de la confusion. Confusion, c'est essentiellement prendre une chose pour une autre. Et la confusion qu'il s'agit de dévoiler et de dissiper, c'est celle qui concerne la notion du moi et du je. Okay. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de je et de moi? Qu'est-ce qui parle quand nous disons je, ou qu'est-ce qui pense quand nous pensons je? C'est évidemment quelque chose d'assez complexe, mais qui se trouve au cœur de la méditation. Puisque s'il y a cette notion de je ou de moi, il n'y a pas d'intimité avec l'expérience, il y a confusion, il n'y a pas claire vision, il n'y a pas liberté, il y a contrainte. Mais on pourrait aborder aussi cette question d'une manière un peu différente pour voir l'importance que ça a. Je vais revenir à un sutra qu'on évoque souvent, qui est le Malunkyaputra Sutra. Sutra célèbre parce qu'un moine vient interroger le Bouddha et lui demande si l'univers est éternel ou s'il n'est pas éternel, s'il est limité ou s'il est illimité. Il a des questions comme ça, des questions scientifiques, pour ainsi dire. Et il est très déterminé. Il dit, si le Bouddha ne peut pas répondre à ces questions, il quittera le monastère. Vraiment, il veut seulement s'en remettre à un maître qui soit capable de répondre à ces questions importantes. Et le Bouddha pousse de côté ces questions. Il dit que ces questions, elles ne servent à rien. Il dit que l'éveil ou l'approfondissement du chemin ne dépend pas des opinions si l'univers est éternel ou s'il n'est pas éternel. Il dit qu'il existe avant tout la vieillesse, la maladie et la mort, le malheur, les lamentations, la peine et la détresse, moi j'enseigne leur cessation ici-bas, dans cette vie. Bouddha, il dit, revenons à des choses pratiques, ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne le plus proche, c'est ce qui est formulé ici de manière extrêmement tranchante. Il existe avant tout la naissance, la vieillesse et la mort, le malheur, les lamentations, la détresse, moi j'enseigne leur cessation ici-bas, dans cette vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le Bouddha, il enseigne la cessation de la mort en cette vie? C'est quelque chose d'assez étonnant. Ce n'est pas que dans ce sutra que ça surgit, on pourrait se dire, il y a peut-être une faute dans le sutra, ça revient constamment. Donc comment se libérer de la mort? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, ça ne veut pas vouloir dire éviter une nouvelle naissance parce que on accumule les causes et conditions qui fait qu'on ne va plus renaître, comme on ne renaîtra plus, alors on ne va plus mourir. C'est pas ce qu'il dit. Il dit la libération de la mort ici-bas, dans cette vie même. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Cessation de la mort, se libérer de la mort. Et ça, c'est quand même le cœur de la quête spirituelle dans le bouddhisme. Alors si évidemment il y a une erreur là, si c'est faux, c'est pas concevable qu'on puisse se libérer de la mort, alors évidemment toute la tradition bouddhique elle a pris un mauvais coup. Ça devient quand même un peu douteux toute cette histoire. Si dans la quête essentielle ou la promesse essentielle, il y a une erreur fondamentale, donc il faut tout revoir. Donc c'est une question évidemment importante et que nous explorons à chaque instant de la pratique. Ce n'est pas une question uniquement intellectuelle, philosophique. Il faut néanmoins l'aborder un peu du point de vue philosophique parce qu'autrement on ne s'ouvre même pas à la possibilité que la croyance naïve soit peut-être pas tout à fait juste. Maintenant, c'est ce questionnement du moi, c'est pas une chose bouddhiste. On en trouve à pas un questionnement tout au long de la culture occidentale aussi. Je ne vais pas additionner toutes les citations pour le montrer. J'en ai pris une ici, une de Camus, dans le mythe de Sisyphe. Il dit « Car si j'essaie de saisir ce moi dont je m'assure, si j'essaie de le définir et de le résumer, il n'est plus qu'une eau qui coule entre mes doigts. Je puis dessiner un tous les visages qu'il sait prendre, tous ceux aussi qu'on lui a donnés, cette éducation, cette origine, mais on n'additionne pas des visages. Pour toujours, je serai étranger à moi-même. » Donc on se rend compte que la question du moi, c'est pas simple. Que dès que on se questionne vraiment pour savoir ce que c'est, eh bien, c'est comme Camus l'exprime, alors c'est de l'eau qui coule entre nos doigts. Il y a quelque chose de pas saisissable. Et c'est bien ce que nous rencontrons dans la pratique. Le plus souvent, il y a ce moi dans l'expérience. Je suis fatigué, je suis triste, je suis calme, je suis agité. Voilà une sorte d'observation. J'ai des douleurs ici ou là. J'ai de l'inquiétude qui reste quand même toujours reliée à cette notion du moi. Comme si ce moi était quelque chose de stable, de solide, qu'on devrait pouvoir déterminer. On devrait pouvoir mettre le doigt dessus. Ah, ça c'est le moi. Ça c'est moi, ça c'est je. Mais le problème c'est que dès qu'on veut mettre le doigt dessus, on ne sait plus où le mettre. Ça a l'air, quand on ne cherche pas, ça a l'air assez simple. Mais quand on veut le déterminer, ça c'est plus compliqué. Il s'en va constamment. On croit le trouver à un endroit, on essaie d'être un peu plus attentif, il n'y a rien. On le cherche ailleurs, où il semble être, on regarde, il n'y a rien. Et pourtant, il nous donne un sens d'une certitude. À tel point que ça devient difficile d'imaginer, mais c'est pas possible. Comment est-ce que ça pourrait fonctionner tout ça sans moi? Alors qui est-ce qui verrait? Qui est-ce qui écouterait? Qui est-ce qui méditerait? Rien ne tient s'il n'y a pas de moi. On se rend bien compte qu'il y a là une grande certitude. Dans le fond, il est bien normal que la méditation questionne cette certitude, parce que s'il n'y avait pas un questionnement radical, comment est-ce qu'une libération ou liberté, qui n'est pas simplement une sorte de transformation, d'amélioration, pourrait être concevable sans questionner ce qu'il y a de fondamental? Évidemment, si on ne veut pas le questionner, c'est un peu difficile. S'engager dans la méditation sans vouloir vraiment s'engager dans le questionnement auquel la méditation invite. Je vais donner cet exemple, je n'ai pas trouvé d'autre, mais qui est tellement parlant, de ce capitaine commandant d'une forteresse en Autriche et qui est assiégé et qui n'a plus de nourriture, donc très peu de nourriture, assiégé par l'armée ennemie, donc il n'a pas de solution. S'il essaie de sortir, il va se faire massacrer par l'armée ennemie qui l'entoure. S'il reste, il va mourir de faim. Donc une situation extrêmement difficile, situation sans issue. Alors il demande au cuisinier d'amener la dernière vache, de la tuer, de la remplir du seul sac de farine qu'il leur restait, et il le lance par-dessus les murailles. Il l'offre à l'ennemi. Et quand l'ennemi voit ceci, voit cette nourriture, il dit, mais s'ils peuvent se permettre de gaspiller ceci, ils doivent en être encore pleins, jamais on arrivera à les assiéger. Donc ils lèvent le camp, ils s'en vont. Donc on a ici quelque chose de très parlant, parce que le capitaine de la forteresse a fait la dernière chose qu'on penserait judicieuse de faire. C'est vraiment la pire des choses, de gaspiller la seule nourriture qui reste. Ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et pourtant, c'est de cette manière-là qu'il a sauvé les habitants de la forteresse. Donc le questionnement de la notion du moi et du je est un peu du même type. Si on aspire à une plus grande liberté, et peut-être se libérer de la naissance, vieillesse, maladie et mort, alors il faut bien qu'on s'ouvre au moins à ce questionnement, sans qu'on n'en fasse une sorte de question de conviction, c'est pas ce dont il s'agit, mais au moins de se dire, et si on questionnait cette instance-là? Si peut-être le problème était là. En Israël, je parlais avec un ami qui s'occupe de pensées créatrices, et il me disait, mais voilà, quelquefois on essaye de sacrifier la chose la plus importante dans le projet pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, évidemment, si on vient méditer, c'est moi-je, parce que quand même, je voudrais bien trouver la liberté, je voudrais bien trouver le calme, la tranquillité, ce qu'on comprend bien. Mais il y a un moment où on se questionne aussi, est-ce que c'est vraiment la bonne approche d'asseoir tout, de tout relier à ce moi dont on ne sait pas vraiment ce que c'est, alors essayons de déterminer qu'est-ce que c'est. Et il ne s'agit évidemment pas de vouloir se convaincre ou de se faire un mantra, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je. Ça n'arrange pas les choses, on rajoute une confusion sur une autre confusion. Mais peut-être essayer un peu de comprendre très très simplement comment cette notion est structurée. On pourrait faire un long développement psychologique sur comment le moi est structuré. Mais ici, c'est d'une manière un peu plus simple et précise dans l'expérience. Cette chose-là que j'aimerais un peu envisager. Comme nous l'avons vu, dans chaque moment de conscience, il y a quelque chose qui est pensé, vu, entendu, senti, goûté, et puis il y a en même temps, dans cette même expérience, une conscience qui est consciente d'elle-même, conscience de soi. S'il n'y avait pas conscience de soi, à ce moment-là, on ne serait même pas conscient de voir, d'entendre, de sentir, de goûter. Ça fait que c'est comme si on ne voyait pas, on n'entendait pas. Donc il y a cette conscience de quelque chose, d'un contenu, mais en même temps, elle sait qu'elle est consciente de ceci. Savoir n'est pas tout à fait juste, elle est consciente d'être consciente de ceci. Donc cet aspect-là, Et dans la conscience d'un objet, d'une forme, d'un son, il y a une manière de saisir par le concept. On a expliqué la différence entre connaissance et conscience. On saisit, j'entends la personne qui tousse, la ventilation, la voiture, le bruit de la voiture. Donc on en fait un concept qu'on saisit. Cette expérience-là, cette conceptualisation de l'aspect, dirions-nous, objectif de l'expérience. Mais il y a en même temps, donc cette conscience de soi qui est là, il y a en même temps une conceptualisation de ceci. On la saisit. Mais la conscience, on ne peut pas la saisir juste en tant que conscience de soi. Pour la saisir, on en fait un concept. Et ce concept, c'est le concept de moi et le je. Moi et le je, c'est le concept qui représente la conscience. Donc dans cette histoire, il y a conceptualisation de l'autre personne qui tousse, et puis il y a conceptualisation de je. J'entends la personne qui tousse. Donc on a ces deux concepts qui font qu'à ce moment-là, on est bien dans cette expérience, j'entends la personne qui tousse. On a créé ce concept qui est là comme représentant, si vous voulez, dans le monde du concept, comme une chose presque, représentant de la conscience qui est ce moi, ce je. Mais cette conscience d'elle-même, dans toute expérience, elle est pareille elle-même dans chaque expérience. Elle n'est pas une fois, je ne sais pas, petite, grande, moyenne, chaude, froide. La conscience d'elle-même dans chaque expérience, elle est similaire. Elle change d'instant en instant selon les expériences, mais elle est parfaitement similaire. Qui donne quelquefois l'impression d'une sorte de stabilité. Maintenant, ce que nous remarquons, c'est que lorsque on pense à sa propre existence, alors on peut dire, voilà, moi j'étais à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, j'étais là, on peut se rappeler avec la forte conviction que c'était bien moi qui étais là. Mais évidemment, si on regarde, alors, qu'est-ce qu'il y a de commun avec le moi qui est là aujourd'hui? Du point de vue physique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Du point de vue maturité, il y a un petit peu de différence aussi. Du point de vue des connaissances aussi, du point de vue de... Même de la perception, il y a quelques différences. Donc, nous avons ce sentiment qu'il y a une continuité. Mais si nous essayons de voir où est cette continuité, nous nous rendrons compte que dans aucun élément, ni émotionnel, ni corporel, on pourrait dire ni mental, il y a un élément de stabilité. Tout change. Et pourtant, nous avons la certitude qu'il y a là quelque chose de stable. Qui est une bonne chose. Quand quelquefois ceci disparaît, ça peut être problématique. Donc ceci tient exactement au fait que cette conscience d'elle-même, elle est toujours similaire à elle-même dans toutes les expériences, et on a mis ce concept « je » qui, lui, est identique à lui-même. Il ne change pas. Le concept « je » ou « moi » ne change pas. On peut le placer sur différentes choses. Je peux m'identifier à ce corps. Le corps est différent. Mais je me rends bien compte, quand je dis « moi, je », que ce n'est pas ce corps à cet instant uniquement, puisque je peux aussi m'identifier, si je vois une photo il y a quelques années, j'ai aussi l'impression que ça, c'est moi, c'est je. Et ça ne me pose pas de problème, le fait que physiquement, il y a peut-être pas mal de différences. Donc il y a ce concept qui est cette chosification, ou cette conceptualisation de la conscience qui se connaît elle-même, qui est là dans chaque expérience et qui donne ce sens de stabilité, de durée, mais qui n'est que cette conceptualisation de la conscience qui se connaît elle-même, qui, elle, n'a pas de forme, de couleur, de limite. Donc lorsque l'on conceptualise quelque chose, on l'enferme dans ce concept. Substitue le concept, le concept est substitué à l'expérience. Mais le concept est limité. On n'a pas besoin de partir dans la logique, mais le concept de quelque chose, il s'oppose à tous les concepts qui ne sont pas cette chose. Le moi, tout ce qui n'est, est non-moi. Qu'il y a une sorte de limitation, d'enfermement. Mais qui nous donne ce sens de stabilité. Donc on peut comprendre que quelquefois, dans les expériences, on est concentré sur quelque chose, concentré peut-être sur... des feuilles de l'arbre qui bougent, ou parce qu'on a pensé voir un oiseau, ou peut-être un animal. Donc là, on est très concentré. On peut avoir cette expérience-là, où dans le fond, on s'oublie. On est tellement voué à l'objet qu'on s'oublie. Ou bien des joueurs d'échecs, tellement pris dans leur partie qu'ils s'oublient. Il y a juste là le jeu d'échecs et puis les pensées de stratégie. On pourrait imaginer observer une fourmilière, si c'était notre intérêt, avec beaucoup d'attention, il se passe quelque chose de particulier, être complètement pris dans cette observation. Là, c'est comme si toute l'énergie de la conscience était dans le concept d'objet qui est ici, qu'on est en train d'observer. Mais on peut aussi s'absorber dans le concept du je et du moi, où tout revient à ceci, ce qui est important dans l'expérience, c'est je et moi. Quel que soit le contexte, dans la tristesse, dans la tranquillité, il y a cette forte conceptualisation du moi et du je. Donc dans la méditation, si on ramène tout à cette notion du je et du moi, avec le sens d'un méditant, d'une méditante, le sens de ma tranquillité, ma tristesse, où je suis calme, je suis tranquille finalement, ou heureusement, ou depuis longtemps. Si je ramène toujours à cette notion du je, je mets ce concept dans l'expérience qui voit l'expérience. Prenons la somnolence dont j'ai beaucoup parlé jusque-là. Je suis somnolent. Alors dans cette expérience-là, il y a bien l'expérience de la somnolence qui est une certaine opacité de la conscience, manque de tonus corporel, mais du point de vue de la conscience, il y a une certaine opacité. Mais il y a aussi le concept « je » qui est là, et ce concept « je » est un filtre qui ne permet pas de vraiment comprendre profondément qu'est-ce que c'est qu'une conscience qui somnole. Il y a quelque chose ici qui voile cette expérience. Et c'est au moment où je m'intéresse à qu'est-ce que c'est qu'une conscience qui somnole. Non pas que j'essaye de faire un sort à ce moi, mais dans le fond, je le nourris pas tellement, je ne m'y intéresse pas tellement. Je sais bien qu'il veut toujours amener sa fraise, mais tant pis maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une conscience qui somnole. Alors, je m'ouvre à cette expérience. Je peux être pleinement présent à cette conscience qui somnole, sans notion du je ou du moi, parce que je ne l'ai pas soutenu, parce que je n'ai pas voulu le nourrir, le perpétuer. Et à ce moment-là, je prends pleinement conscience de ce que c'est qu'une conscience qui somnole. Et ceci est éprouvé de manière impersonnelle, et pas du tout comme contrainte. Il y a là justement une profondeur de clarté, de compréhension de ce qu'est une conscience qui somnole et de ce que c'est que la conscience, lorsqu'elle n'est pas voilée par cette notion « je » ou « moi ». Donc ici, ce n'est pas le fait de vouloir éliminer quelque chose, mais c'est au contraire de se disposer encore plus à faire l'expérience de la somnolence. Ça ne veut pas... Quelquefois, on dit « voilà, je suis perdu dans la somnolence, alors je vais m'endormir », mais c'est parce qu'on y adhère. C'est comme si la notion du « je deviens somnolent, je suis très somnolent, je vais disparaître ». Il y a cette solidification dans l'identification. Parce que s'il n'y a pas cette notion du « je » ou du « moi », cette somnolence n'est pas du tout vécue de la même manière. Donc dans un premier temps, on essaie de ne pas l'éliminer, de ne pas se battre contre cette expérience, mais on le fait d'une manière personnelle. C'est normal, on commence comme ceci, mais il s'agit de ne pas renforcer cet aspect personnel dans l'expérience de la somnolence, mais l'aspect de la présence ou de la conscience qui est dans cette somnolence. De la même manière dans la fatigue, je suis fatigué. Et là, on sent tout de suite, je suis fatigué, il y a une sorte d'enfermement. Je suis fatigué, voilà, je ne sais pas combien de temps je vais encore supporter cette fatigue. Voilà, je vais essayer de rester encore 10 minutes, 15 minutes, une heure. Mais là, je suis enfermé dans l'expérience. Mais si je m'ouvre, je me rends disponible à l'expérience simplement de la fatigue, cette expérience de la fatigue qui ici a des dimensions corporelles et mentales, spirituelles manifestes. Si je me dispose à ceci, sans rajouter cette notion du « je » et « moi », en essayant d'être plus disponible, plus intime à ceci, alors la fatigue n'est plus du tout quelque chose dans lequel je m'enfermerai ou en moi enfermerai cette expérience, et la fatigue, je ne la subis plus. Voilà, c'est une manière d'être fatigué qui n'est pas un problème. Mais ceci est aussi important dans les expériences positives de calme, de joie, de tranquillité. Il est important, quand surgissent ces expériences-là, d'essayer d'avoir cette clarté. Parce qu'on peut très bien se plaire dans une expérience de joie, de calme, de tranquillité. Ah, c'est chouette. Oui, c'est bien. C'est agréable. Mais le fait de s'arrêter à ces dimensions agréables de cette expérience-là m'empêche d'en tirer la sagesse. Ce qui veut dire qu'au moment où elle part, j'ai perdu quelque chose. Je suis démuni, il y a une perte. D'ailleurs, dans la méditation, je vais peut-être le sentir comme une frustration. Ah mince, j'arrive pas à retrouver le calme, la tranquillité que j'avais ce matin ou hier. Mais si j'arrive à faire cette expérience du calme, de la tranquillité, de la joie, à nouveau, comme conscience joyeuse, conscience tranquille ou calme, sans m'identifier par cette disposition à vraiment faire l'expérience, pleinement l'expérience de ce calme, de cette tranquillité, de cette joie, à ce moment-là, il n'y a plus ce concept qui enferme l'expérience, et je me rends compte dans la même expérience de calme, de joie, de tranquillité, qu'il y a une dimension totalement différente. Que dans la première expérience, il y avait là quelque chose d'agréable, de joyeux, mais dans le fond, je restais assujetti à cette expérience. Je dépendais un peu de cette joie. Je dépendais de la joie pour être joyeux, si vous voulez, ou pour être satisfait. Alors que lorsqu'il n'y a plus cette identification, à ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre de l'équanimité qui est plus vaste, plus profonde que cette joie. Et cette joie n'en est pas une condition. Sans évidemment que je rejette la joie. Donc lorsqu'il y a ces expériences positives, c'est important d'essayer d'être dans cette sensibilité. Une des manières de comprendre, de réaliser, est-ce que je suis dans cette disposition juste ou fausse, ça serait de se demander, et si cette joie partait, et si ce calme partait? Et si on a l'impression qu'on perdrait quelque chose, c'est qu'on est attaché. Mais si on se dit, ça n'a aucune importance, parce qu'il y a cette disponibilité qui est là, cette équanimité qui est là, qui fait qu'elle ne dépend pas du tout de l'expérience. Et si cette joie partait, et alors? Et si cette tranquillité partait, et alors? Ça ne changerait rien du tout. Puisque c'est pas ceci l'enjeu, l'apparence de la conscience dans cette expérience-là de calme ou de tranquillité. Maintenant, ne vous demandez pas tous les deux minutes, est-ce que si ça partait, là, qu'est-ce qui se passerait? Parce que non, ça risque d'être un peu compliqué. Mais par moments, on peut se demander, est-ce que là, il y a encore une sorte de saisie, d'attachement à cette expérience-là? Et c'est extrêmement éclairant sur notre chemin méditatif, au moment où on a ces expériences, soit dans quelque chose de facile, enfin d'agréable, comme la joie, la tranquillité, soit dans quelque chose de plus difficile, comme la fatigue ou la somnolence. C'est exactement la même sensibilité qui est en jeu. Si je suis dans la fatigue et tout d'un coup je ne m'identifie pas, je me rends compte qu'il y a là une liberté par rapport à cette expérience. Je pourrais aussi me dire, est-ce que je ne préférerais pas que cette expérience soit absente? Et à ce moment-là, je me dirais, mais ça n'a aucune importance. Aucune importance. Non pas parce que je deviens indifférent, mais parce qu'il y a une qualité de la conscience bien plus profonde qu'on appelle l'équanimité. Cette parfaite disponibilité à toute expérience. Donc on peut l'explorer dans la marche aussi. Je marche, et puis si on essaie d'être plus disponible dans cette présence du corps en mouvement, il y a un moment où on peut très bien faire l'expérience de cette présence en mouvement de manière complètement impersonnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas individuelle. Il y a bien là quelqu'un de spécifique qui marche, mais elle n'est pas cernée par le concept « moi-je ». Et ça, on peut vraiment l'explorer dans la marche, lorsqu'il y a cette disponibilité au mouvement total dans la marche. De la même manière, on s'identifie à la vision. Je vois ceci. On dit, mais c'est quand même pas possible. Si je vois pas, comment je peux voir? Donc ça va pas. C'est pas du tout imaginable. Mais l'identification à la vision, elle amène rien du tout. Elle amène juste un concept, une image de je dans cette expérience de vision qui, elle, n'en a pas du tout besoin. On peut l'éprouver dans l'audition, comme on en a parlé de nombreuses reprises, mais dans la vision aussi, si vous voulez. Vous pouvez explorer ceci. La vision se passe exactement où vous êtes. Et on se rend compte qu'il y a une sorte de saisie de cette expérience, identification. On n'a pas besoin pour l'identification de le dire lourdement, je ou moi, on a ce sens. Mais on peut aussi très bien faire cette expérience de la vision sans qu'il y ait ce concept moi ou je. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert. On ne perd pas la vue pour autant, ni la vision, il y a quelque chose juste de plus ouvert. Je crois que l'audition est un peu plus facile à explorer, mais c'est pas dit, donc par moments explorer aussi avec la vision, si vous le voulez. Donc on ne dit pas que si on questionne cette notion du moi, on ne dit pas qu'il n'y a rien. S'il n'y a pas moi, alors il n'y a plus rien du tout. Il y a ce flot d'expérience qui surgit d'instant en instant, de perception, de pensée, d'émotion, d'états mentaux, tout ceci. Nous sommes cet ensemble d'expériences constamment, mais de manière impersonnelle, mais de manière pleine. Nous sommes pleinement ceci de manière impersonnelle. Donc ce n'est pas une sorte de perte, on a perdu quelque chose. Si on a perdu quelque chose, c'est un fardeau. Il ne s'agit pas d'être convaincu, il s'agit d'explorer ceci. Et je crois que quand on peut l'explorer un petit peu, le goûter un peu, on se rend bien compte que c'est effectivement ce jeu, c'est moi, est un fardeau. Un concept, ce n'est pas un fardeau réel dont on ne pourrait pas se débarrasser. C'est juste une croyance qui nous enferme. Une croyance extrêmement utile. Ce serait complètement absurde de ne plus vouloir utiliser « je » ou « moi », complètement utile, dans la mesure où on n'est pas dupe. J'ai marqué ici une citation de saint Augustin, à nouveau, pour montrer que ce n'est pas une histoire bouddhiste uniquement. Donc saint Augustin parle à sa manière, dans son langage, mais il dit « ce que je trouve en rentrant en moi-même, ce n'est donc pas moi ». Ego, c'est la lumière divine. Lumière divine, on pourrait dire ici, pour nous, serait la conscience pure. Sans évidemment vouloir me mêler des histoires de théologie de saint Augustin, mais c'est clair que quand il va en lui-même, il est là complètement en contact avec lui-même, il ne trouve pas de moi et d'ego. Ce que d'ailleurs aucun mystique ne fait. Maître Eckhart, il disait, il faut se libérer de la personnalité, de la temporalité et de la multiplicité. Il n'y a pas de mystique qui, qui pourrait se fonder sur un moi, ou alors une manière de parler, et puis on en fait une autre dimension. Mais on s'identifie aussi au corps. Dans un miroir, une photo, c'est moi. En général, pas l'ombre d'un doute. On ne dit pas, tiens, c'est qui cette personne devant le miroir? Ouais, je crois que je la connais. Non, c'est pas vraiment besoin de réfléchir. Cette identification, ici évidemment, c'est l'image du corps. Bon, quand on parle du corps, on a l'impression qu'on parle de quelque chose de très défini. Le corps, on s'identifie au corps, mais quoi le corps? Moi, j'ai une vision très très faible de mon corps. Directement, c'est assez limité, quoi. Mon visage, je ne le vois pas. Bon, je le vois dans un miroir, mais ce n'est pas vraiment mon visage. Donc, l'image même du corps, c'est bien quelque chose de concret, qui est très utile, mais concret. Est-ce que quand je m'identifie au corps, c'est à l'image du corps, hein, qui reste de l'ordre d'une image mentale, ou est-ce que c'est au corps vécu, corporellement? Et ça, c'est très différent, le corps vécu. Pas le corps vu par quelqu'un d'autre, qui peut voir aussi ma photo, qui peut aussi voir mon image dans le miroir, donc ce corps vu qui est le corps, dans le fond, qu'on partage avec les autres dans cette vision, mais le corps vécu de l'intérieur. Ce corps vécu dans la présence corporelle. Et ça, c'est un peu différent. C'est plus tellement un corps-objet, c'est un corps-sujet. C'est le corps-être, c'est le corps-être-conscience. Et là, on se rend compte que s'il y a identification à ceci, il y a aussi cette conscience d'être ce corps. On va s'identifier aussi à cet aspect-là. Or, on peut très bien, je l'ai dit dans la marche, avoir cette qualité de totale présence corporelle qui n'est pas du tout liée à la notion d'un moi et qui est certainement une plus grande plénitude d'être corps que quand il y a le concept du moi qui vient pour voiler cette expérience. Et ça, évidemment, c'est très important, cette question de l'identification au corps. Parce que le corps, en général, avec l'âge, il a tendance à ne pas aller dans la meilleure direction. Donc, si on s'identifie tellement au corps, on a l'impression que c'est... Le Bouddha parlait de se libérer de la vieillesse. À ce moment-là, il y a beaucoup de douleurs qui surgissent parce qu'on investit tout son affect dans quelque chose qui n'est pas tellement fiable, qui ne dépend pas vraiment de nous. Un petit peu, on peut faire quelque chose, c'est vrai, mais beaucoup de côtés, on ne peut pas faire quelque chose. Donc, c'est le fait d'investir par identification tellement d'affect dans le corps, c'est se rendre une immense vulnérabilité. Je vais aborder maintenant cette question du moi un peu différemment, comme je l'ai fait à plusieurs reprises dans la pratique de la compassion. Basé un petit peu sur le texte de Shantideva, dans le 8e chapitre, il parle de l'échange de soi et d'autrui. Et cette réflexion est très intéressante. Parce que, évidemment, nous avons tellement la certitude d'être moi. Moi-je, c'est avec quelque chose de vraiment sûr, mais il faut quand même bien se dire que pour tous les autres hommes sur cette planète, et femmes, et enfants, et vieillards, moi je ne suis pas moi, je ne suis pas du tout moi pour eux. Il n'y a qu'une personne pour laquelle je suis moi, c'est moi. Donc si je me fie à la majorité, je suis obligé d'admettre que non, je ne suis pas moi. Je suis d'accord avec la majorité, il faut bien m'y fier. Hein? Et chacun a exactement la même impression d'être moi-je. Mais alors, combien il y en a des moi-je, si on a des milliards? Donc il y a là déjà quelque chose d'un peu étonnant, cette manière qu'on a de penser qu'il y a quelque chose de très solide. C'est comme si le simple fait de dire moi et je, dans ce terme-là, on s'enfermait dans cette notion-là. Oui, on place ce concept moi et je, on s'investit totalement là-dedans. Mais on peut aussi, et on a fait des exercices de ce type-là, s'imaginer être autre. Qu'est-ce que c'est que dans le fond, si j'étais autre, pas je et moi, et me rendre compte que ce n'est pas quelque chose de complètement aberrant puisque je suis autre pour tous les autres. Donc on peut faire cet exercice en s'imaginant se rendant dans un café. Alors pour le garçon ou pour la serveuse, je ne suis pas, voilà moi qui arrive, il dit tiens, un client. Hein? Et si je rentre, si j'ai cette notion, tiens, pour cette personne-là, je ne suis que autre. Un autre client. Et si je m'imagine beaucoup de situations, tout d'un coup je me rends compte que c'est vrai, je peux aussi très bien prendre et sentir comment je suis autre. Sentir que je suis autre dans toutes ces situations. Pour les autres personnes, ce n'est pas tellement que je vais dans l'autre pour me voir comme ceci, mais c'est que j'arrive à prendre compte de ceci, que pour les autres personnes, je suis autre. On peut s'imaginer entrer dans un train. Tiens, voilà un autre voyageur. Dans toute situation. Personne qui rentre ici ne dit pas, tiens, moi j'entre. Voilà, un autre méditant, une autre méditante. Donc je peux m'imaginer, si j'entre ici, tiens, simplement, une autre personne qui entre. Et quand on commence à se rendre compte qu'on est aussi, autre, moi, toi, c'est que des termes comme ici et là. Comment c'est ici? Ici, est-ce que c'est de l'herbe? Est-ce que c'est de la montagne? Est-ce que c'est de la rivière? Est-ce que c'est du sable? Et là, comment est-ce que c'est du sable, la rivière? Ça ne veut rien dire. Ici et là n'ont pas de caractéristiques propres. Moi et je, c'est la même chose. Et tu, la même chose. Aucune caractéristique propre. Et tout d'un coup, je m'attache à des caractéristiques spécifiques. Ce qui ne serait pas si grave si, évidemment, ça ne posait pas tant de problèmes. Comment on s'enferme dans cette notion? Cette notion du moi et du je, à nouveau, elle est essentielle dans notre développement. Ce n'est pas quelque chose dont on pourrait se passer. Ça serait ridicule si quelqu'un voulait faire l'éducation de ses enfants sans leur inculquer cette notion de moi ou du je. Ça serait une catastrophe. Donc il ne s'agit pas du tout de ceci. Mais tout d'un coup, il y en a un investissement tel qu'on est enfermé là-dedans. Et une personne qui se libérait de, non pas de la manière de parler je ou moi, mais de cette croyance en quelque chose de solide qui correspond, en référence je et ce moi, n'est pas dysfonctionnel, au contraire, fonctionne d'une manière beaucoup plus libre, plus ouverte. Donc, tout ne semble pas toujours affecté, une sorte de moi ou de je qui serait ici. Donc à ce moment-là, s'il n'y a pas d'identification au corps ou au son, on se rend compte que ce moi ou ce je n'a aucune substance, n'a rien de solide. Quand on se pose la question sur la mort, mais alors la mort de qui parle-t-on? Problème, c'est la mort de ce moi ou ce je qui semble solidifier tellement les choses. Donc il peut y avoir que libération de la mort dans la mesure où il y a libération de la notion du moi ou du je. Si on reste attaché à la notion du moi ou du je, ça ne veut rien dire, se libérer de la naissance et de la mort. Et là, c'est un peu comme ce commandant de la forteresse qui a sacrifié la vache pleine de farine. À part que la vache pleine de farine était réelle, alors que le je et le moi qu'on perd dans l'histoire, c'est qu'une croyance. La croyance en sa solidité. Ce qu'on perd, c'est une illusion qui nous contraignait complètement. Dans la réalité du moi, pas dans l'usage du moi du je. Pour terminer, je vous lis simplement une citation d'un théologien du 15e siècle que Luther avait publié dans la tradition chrétienne. Ce théologien dit, en cette vie, il n'y a point de moi, de mien et d'autres titres semblables qu'on se puisse attribuer. Donc il s'exprime aussi de manière claire. À nouveau, on pourrait multiplier à l'infini ces citations dans la pensée occidentale pour bien montrer que ce n'est pas quelque chose de limiter à l'Orient. Voilà donc quelques remarques pour situer la confusion qui est vraiment dans le domaine de l'identification. S'attacher à ce concept, je et moi, de vouloir ou de croire, déjà de croire qu'il est dans toute expérience, ou de vouloir le mettre dans toute expérience. Je me rappelle vaguement d'une citation de Sartre dans ses carnets d'un drôle de guerre qui m'avait frappé parce qu'il parle de cette conscience de soi qui serait dépouillée par moments, ce qui peut tout à fait être le cas. Il disait que pour cette conscience, la mort n'a aucun sens. C'est extrêmement parlant parce que s'il n'y a pas d'identification pour cette conscience qui est plénitude, pas de contenu, la mort ne veut rien dire. La mort, elle est là quand il y a identification à quelque chose de particulier. Donc voilà, cette approche, si vous voulez, pour nous, dans la pratique méditative, ça revient toujours à être le plus proche de l'expérience elle-même, cet intérêt, cette curiosité qu'on a pour la somnolence. Vous ne croyez pas que je vous mets des somnifères pour vous expérimenter ça, mais bon, j'en parle beaucoup parce que ce n'est pas trop dramatique, de la fatigue, mais de la joie, de la tranquillité ou de l'inquiétude. D'essayer d'être le plus proche possible de ces expériences, de l'audition, de la sensation corporelle. Et c'est de cette manière-là qu'on peut découvrir. Aussi, en prenant au moins à titre d'hypothèse qu'il est peut-être possible de faire l'expérience sans qu'il y ait un moi, un jeu dans l'histoire.